Europe Soir,
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir dans Europe Soir, votre émission de débat sous le format, vous le savez maintenant, de Punchline, un grand journal à 19h. Et hormis ça, les thèmes d'actualité qui vous intéressent, passés en revue par nos invités, nos amis débatteurs. Bien sûr, on parlera de Jean-Paul Belmondo, obsèques à Saint-Germain-des-Prés ce matin, après l'hommage aux Invalides hier. La France pleure Belmondo, et par là, la France pleure la France, celle du Saint-Jean d'hiver, de Borsalino, la France des Trente Glorieuses, la France d'avant la crise du pétrole, la France qui faisait rêver loin des gilets jaunes, la France qui rayonnait à l'international autrement que par des marques fashionables, la France qui aimait la France et que Bébel aimait représenter. Qui maintenant peut sérieusement prendre le relais de Belmondo? Et surtout, comment faire le lien avec le reste du monde? Lequel des acteurs en place aujourd'hui va flirter avec une Ursula Andress, faire asseoir des familles entières dans le canapé devant la télé le dimanche soir? On en parle de tout ça après le grand journal de 19h d'Alexandre Lemaire. Car avant cela, il nous faut évoquer d'abord le cas Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé est arrivée à la Cour de justice de la République pour une possible mise en examen et surtout pour s'expliquer de sa gestion de la crise sanitaire aux premières semaines du Covid-19. Et s'il y a 19, c'est que ça commence tôt, à l'automne 2019 et au tout début de 2020, au mois de janvier. Tous les regards étaient en effet tournés vers le ministère de la Santé et par extension sur le gouvernement. Souvenez-vous, nous regardions inquiets les images de Wuhan en Chine, des habitants confinés, des personnes en scaphandre leur apportant des denrées alimentaires sur le palier. Eh bien, le 24 janvier, Agnès Buzyn prend la parole à l'Élysée pour dire aux Français les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles. Sauf que cet hématologue de formation, une fois remplacé par son collègue Véran, dira le 17 mars dans Le Monde « Je pleurais en quittant le ministère car je savais que la vague du tsunami était devant nous ». Ce matin, en arrivant devant la CJR, Agnès Buzyn dit « C'est une excellente opportunité pour moi de rétablir la vérité ». Quelle vérité? Que savait-on? Qu'a-t-on caché? Si jamais on a caché quelque chose, on en parle dans un petit instant. La politique aussi au menu d'Europe Soir, avec à droite Xavier Bertrand surgonflé en mode « ma stratégie est la bonne ». Même si vous l'entendrez, il dit « nous serons forcément unis ». Évidemment, dans sa tête, ça veut dire pas de primaire. Tout le monde se ralliera tôt ou tard à moi. Et dans ce but, il est allé justement séduire les parlementaires, les Républicains à Nîmes. Le patron des Hauts-de-France propose un pacte de dialogue et de respect tout en demandant le soutien de sa famille politique qu'il a pourtant quittée. Quel impact possible? Et puis quel rôle de Nicolas Sarkozy? Pour l'instant, il n'a donné aucun aval public pour aucun des candidats, mais il encourage. Explication à suivre aussi sur cette campagne qui, à droite, doit aussi composer avec le lire d'Éric Zemmour qui paraît la semaine prochaine et DLR comme Éric Ciotti qui n'hésite pas à dire qu'à un second tour Macron-Zemmour, il choisirait Zemmour. Voilà pour le programme, on en parle ce soir avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain. Bonsoir, bonsoir Amine. Céline Hervieux que l'on accueille. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national du PS et Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes bien sur Europe 1 et il est 18h.
Europe Soir, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et nous voilà donc près de 2 ans en arrière, je le disais, à l'automne 2019, lorsque ces images nous provenaient de Chine, lorsque les correspondants sur place, dont Alexis Lebelzik pour Europe 1, nous racontaient, Wuhan nous racontait cette ville morte, une vague histoire de soupe à la chauve-souris qui faisait sourire le monde. Moins drôle, cette hypothèse d'une fuite du laboratoire P4, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas si la thèse est plausible ou pas. Quoi qu'il en soit, le virus était lâché. Et tel le nuage de Tchernobyl, il n'y avait aucune raison qu'il ne se propage pas. Puissant, ravageur, s'attaquant aux personnes les plus vulnérables, une sorte de grosse grippe, ça aussi on en rira après, mais il se trouve que les octogénaires en meurent de la grippe et effectivement, ils ont été les plus touchés. Le SARS-CoV-19, c'est ainsi qu'on l'a appelé, 19 pour l'année, SARS-CoV-19, car ce n'est pas le premier coronavirus qu'on connaît, mais quand on se souvient aussi des autorités, du gouvernement, de l'OMS, on nous disait pas de panique, ce n'est pas une pandémie, pas de risque épidémique. Et le 24 janvier 2020, Agnès Buzyn prend la parole à l'Élysée Et voilà ce qu'elle dit.
Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Vous connaissez la suite, le pataquès sur les masques, pas besoin de masques, nous disait Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, pour enfin commander des masques en urgence, mais ça n'arrivait pas, les Chinois les vendant au plus offrant et donc aux Américains. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, une fois remplacée par son collègue Véran, accorde une interview dans Le Monde. Nous sommes le 17 mars 2020 et voici ce qu'elle dit. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Voilà le sujet devant la Cour de justice de la République aujourd'hui. Et en arrivant ce matin, Agnès Buzyn déclarait
« Aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Et je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement » mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer ce pays à une crise sanitaire mondiale, dont je le rappelle, elle dure encore.
Excellente opportunité pour s'expliquer, Louis Dragnel.
Alors, on peut douter de la sincérité de son propos, parce que elle avait déjà séché une première convocation par les juges justement de la CJR. Là, elle n'avait pas vraiment le choix. Elle est convoquée, elle sait qu'elle va possiblement être mise en examen. Elle ne peut pas se dérober parce qu'elle, d'ailleurs, c'est pour ça que ça dure autant de temps. Elle a commencé ce matin à 9h30 et ça dure encore à l'heure à laquelle on se parle. Donc elle est en train d'essayer de convaincre les juges.
Ça rappelle d'ailleurs le parquet national financier quand il y a
alors
des
c'est agences. Un petit peu voilà. Différent quand même parce que c'est très simplement la Cour de justice de la République est composée de magistrats et puis de députés et de sénateurs. C'est une cour spéciale qui est faite pour juger les ministres.
Après, dans la longueur, effectivement, on se souvient de ces audiences qui sont très très longues.
Ça dure un peu et donc elle est en train de convaincre les juges qu'elle a en face d'elle
de sa bonne foi.
De sa bonne foi et surtout, elle ne veut pas être mise en examen, elle veut sortir comme témoin assisté. Voilà. Ensuite,
c'est les deux hypothèses. Hein. Soit elle est mise en examen, soit elle est témoin assistée.
Exactement, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des sujets politiques, et puis ça permet aussi aux juges quand même de retracer un peu l'origine de la gestion de l'épidémie. Parce qu'effectivement, et c'était très intéressant d'entendre les sons de la ministre à deux reprises, et on voit bien qu'il y a des choses assez contradictoires. Et puis elle va devoir s'expliquer aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai noté ça, il y avait même un vol militaire qui avait été affrété depuis l'aéroport de Creil, c'est une base militaire.
Bah, c'est là que tout a commencé
début,
en France.
Exactement, au début de l'épidémie, et la France avait envoyé à la demande de Mme Buzyn des stocks de masques, des respirateurs à la Chine. Et donc je pense que c'est d'ailleurs une illustration qui montre qu'à ce moment-là, elle était persuadée que l'épidémie n'allait pas devenir ce qu'elle est devenue.
Mais il y a eu le cluster à Crépy, juste à côté de Creil.
Absolument,
et c'est là que tout a commencé.
Alors,
on se souvient des reportages qu'on a envoyés.
Ce qui intéresse les juges, c'est de savoir est-ce qu'elle a manqué d'anticipation, est-ce que vraiment elle a eu les bons capteurs, est-ce que vraiment elle s'est informée, est-ce qu'elle a vraiment regardé si les stocks de masques, comme elle le dit, ont été commandés puisqu'il en manquait. Donc voilà, c'est quand même, il y a énormément de questions qui vont lui être posées. Et puis en toile de fond, se pose quand même la question de la responsabilité des politiques face à la politique qu'ils exercent, le rouage qu'il y a entre les politiques et leurs administrations. Et puis enfin, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est le débat de la République des juges, si on veut parler comme ça. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a un ministre qui est mis en cause dans une affaire quelle qu'elle soit, c'est un peu le tribunal médiatique auquel d'ailleurs on participe, même si ça fait partie de la transparence et du devoir de vérité et d'information.
Aminel Khatmi, pardon.
Moi, je suis très choqué qu'on convoque des responsables politiques pour s'expliquer devant des juges sur la gestion d'une crise qui n'est même pas terminée. Je trouve ça très choquant.
Donc c'est le gouvernement des juges, c'est un peu ce que vient de dire Louis Dragnel en fin de propos.
Parce que il arrive qu'elles soient un peu connotées, j'irai pas jusque-là, mais on est dans une démocratie. Il y a un Parlement dont l'une des missions, précisément, outre de voter la loi, est de contrôler l'action du gouvernement. Que des premiers ministres, des ministres de la Santé actuels ou plus anciens aillent devant des commissions d'enquête, devant des commissions spéciales à l'Assemblée, au Sénat, c'est normal. Mais qu'on aille devant des magistrats, devant des juges, qu'on parle là de mise en examen, qu'est-ce que ça veut dire de l'action publique ? Et c'est aussi le risque que demain, à chaque crise, à chaque décision, on sorte les parachutes pour se protéger, qu'on ne prenne plus aucun risque, qu'on renvoie les décisions urgentes à prendre au prétexte qu'on pourrait être demain convoqué ici ou là. Il y a deux juges en démocratie, d'abord le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement, et puis le peuple. Si sanction il doit y avoir, si les Français considèrent que le gouvernement, et on peut en discuter, a mal géré la crise, Il y a dans 8 mois des élections.
Ça, c'est pas ce que vous remettez en cause, en l'occurrence. Le fond, là, c'est juste le fait qu'elle soit devant la Cour de justice de la République.
On peut considérer que l'action, les décisions prises par le gouvernement doivent être jugées. Oui. Et fort heureusement, et c'est d'ailleurs le signe que nous ne sommes pas en dictature, contrairement à ce que des crétins répètent samedi après samedi dans les rues du pays, j'assume le terme, le fait même qu'une ancienne ministre soit devant des juges est le signe que nous sommes en démocratie. Mais à un moment, il ne faut pas non plus entraver l'action du gouvernement.
Céline Hervieux, est-ce que vous êtes choquée comme Amine Khatmi ?
Non, je ne suis pas choquée parce que je considère que c'est extrêmement important que nos gouvernants rendent des comptes sur la manière justement dont ils ont été amenés à gérer cette crise et les décisions qui ont été prises. Et la Cour de justice de la République va justement analyser le niveau de connaissance qu'avait la ministre au moment où les décisions ont été prises. Et moi, ce qui me choque, à contrario de ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a déguisé derrière des arguments sanitaires un manque d'anticipation du gouvernement et on a envoyé des informations contradictoires et ça, les Français ne le comprennent pas. On le paie aujourd'hui dans la défiance du rapport entre les Français et la vaccination. Donc, ça a eu des conséquences extrêmement graves, les mesures qui ont été prises, non seulement de confinement, mais de couvre-feu. Les gens ont perdu leur boulot. Donc, c'est important de savoir comment les décisions ont été prises. Et cette Cour de justice de la République, on peut la critiquer évidemment, mais elle est également composée de parlementaires, donc qui ont un avis plutôt objectif, qui vont analyser les dossiers, savoir à quel niveau de connaissance était la ministre au moment où elle a pris les décisions. Et c'est vrai que c'est sorti au mois de mars 2020, où elle explique qu'elle savait justement toutes les paroles que vous avez rappelées à l'instant, quand même nous interroge sur le fait que justement elle savait ce qui allait arriver et elle n'a pas pris les décisions.
C'est l'entretien au Monde.
Voilà, exactement, l'entretien
mars,
au Monde du
2020.
17 mars 2020 où elle explique à Ariane Chemin, votre confrère, qu'elle savait ce qui arrivait, qu'à chaque meeting elle tremblait, qu'on aurait dû tout arrêter. Donc manifestement elle avait des informations qu'elle n'a pas transmises ou en tout cas qui ne se sont pas manifestées dans les décisions qui ont été prises par la suite.
Ce que disait Amine El-Khatmi, c'est que ça n'était pas forcément du ressort de la CJR, mais plutôt d'une commission parlementaire. Pourquoi pas devant une commission parlementaire ?
Elle a été auditionnée devant les parlementaires pendant 4 heures. Elle s'est expliquée. Il y a eu nombre de perquisitions qui ont été réalisées.
Oui.
Oui, alors là-dessus, je pense qu'il y a...
Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron.
Oui, il y a deux choses. Je suis d'accord sur le fait qu'une ministre soit amenée à rendre des comptes, mais je rejoins ce que vient de dire Amine El-Khatmi. La nécessité de rendre des comptes, elle se fait devant le Parlement et devant les Français. Et devant le Parlement, elle l'a fait, comme l'ont fait tous les anciens ministres de la Santé qui ont été auditionnés. D'ailleurs, on a pu constater à cette occasion que les responsabilités dans ce manque d'anticipation étaient partagées. Ce n'est pas Agnès Buzyn qui a décidé de limiter la gestion du stock de masques en France. C'est une décision qui date de 2011, qui a été confirmée en 2013 et donc qui montre bien qu'il y a une responsabilité un peu plus globale du politique sur cette question de la gestion du stock de masques. Et puis, après, il faut revenir aussi sur le chef d'accusation qui est celui de la CJR, qui est le fait de s'abstenir volontairement d'anticiper. Et en fait, je doute que quiconque puisse penser un seul instant qu'Agnès Buzyn s'est volontairement abstenue d'anticiper une réponse à la crise sanitaire et qu'elle ait voulu à un moment attenter à la santé des Français. C'est absolument délirant de penser cela. Agnès Buzyn est une médecin, c'est quelqu'un qui a été engagé toute sa vie à l'hôpital, qui s'est donné pour les gens qu'elle a soignés. Et donc, considérer qu'elle ait pu à un moment volontairement s'abstenir de prendre des décisions, je trouve que c'est choquant. Et puis, la deuxième réponse que j'ai envie d'apporter, c'est qu'il faut aussi il faut éviter de refaire le film une fois qu'on a eu toutes les images et qu'on l'a regardé en entier. Parce que quand on regarde les dates et qu'on reprend les informations dont on disposait à l'époque, quand Agnès Buzyn parle d'un risque de contagion extrêmement limité et que vous regardez le nombre de cas dans le monde à l'époque, vous avez un seul cas qui est en dehors de la Chine, cas en Thaïlande. Oui, mais
est-ce que c'est ça l'anticipation ?
Non, mais est-ce que vous le saviez ? Est-ce que l'OMS a alerté sur le risque de diffusion ? Non, l'OMS
non.
a alerté cinq jours après.
Bien, donc c'est pas tant ces déclarations qui intéressent les juges de la CJR. Ce qui intéresse les juges, c'est ce qu'elle a dit dans
le monde.
Elle dit en fait j'ai tiré la.
Mais est-ce que vous oubliez
pour schématiser elle a dit j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès du président et au-dessus de moi. Et en fait personne
n'a pas entendu.
Elle ne dit pas personne n'a réagi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis ce matin, j'entends le retour sur ces déclarations.
Pas tous en même temps.
Juste de manière factuelle, c'est ça qui les intéresse, parce que aujourd'hui, les juges veulent simplement savoir. Alors, vous avez sollicité qui, sur la base de quelle information, quel document, et quelle décision a été prise, ou au contraire, quelle décision n'a pas été prise. C'est ça qui les intéresse. Et juste une chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis.
Ce que disait Amine El-Khatmi.
Moi, je vous rejoins sur l'idée générale. Sur le fait que effectivement il ne faut pas que systématiquement dès qu'un ministre prend une décision il se retrouve devant la justice. Sinon le pays ne peut plus être gouverné. Et en même temps, de l'autre côté, il faut pas non plus. Je trouve que c'est important que les ministres soient responsabilisés. C'est trop facile pendant honnêtement pendant beaucoup d'années, les ministres se défaussaient un peu dès qu'ils étaient embêtés sur leur administration. Or, un ministre, sa responsabilité, c'est de piloter l'administration. Et on ne peut pas entendre, et pendant beaucoup d'auditions parlementaires qui concernaient Agnès Buzyn, mais de manière globale, depuis une dizaine d'années, on entend beaucoup trop de ministres qui disent « Mais ça, je ne savais pas. Ça, c'était fait malgré moi, dans mon, pas forcément dans mon dos, mais c'était l'administration qui s'autogérait. Je n'avais pas la main là-dessus. » Et je pense que l'enseignement aussi de tout ça, c'est qu'il faut que les ministres aussi retrouvent leur pleine responsabilité par rapport à toutes les décisions qu'ils prennent ou alors que leur administration prend. Ça, c'est extrêmement important.
Mais vous voyez bien le côté contradictoire là-dedans, parce que à la fois, la nécessité de récupérer le contrôle plein et entier sur l'administration, vous savez que dans un ministère tel qu'un ministère comme celui des solidarités et de la santé, vous avez des directions qui sont nombreuses, vous avez des services qui sont nombreux, et donc c'est difficile pour un ministre qui est une personne seule d'obtenir à lui tout seul l'ensemble des informations sur ce qui se passe dans son ministère. Et d'ailleurs,
sur la
cette
gestion
crise,
d'une crise, là, pour le coup, non, mais, honnêtement, c'est piloté mais, politiquement quand on parle, par la quand ministre on parle de
manque,
et son cabinet.
Oui, mais quand on parle de manque d'anticipation, on parle là, en l'occurrence, de décisions qui ont été prises et qui ont un historique, c'est-à-dire qu'on peut difficilement reprocher à Agnès Buzyn le manque de masques en février, sachant que c'est en janvier que les premières alertes sont lancées et qu'elle passe des commandes fin janvier. Et donc, ce que dit Agnès Buzyn, d'ailleurs, elle l'a dit dans ses auditions, et je pense qu'elle le redira devant la Cour de justice de la République, c'est que toutes les décisions, notamment sur l'abandon des stocks de masques, sont des décisions qui étaient passées, et c'est une vraie question, sous le radar des décisions politiques, et qu'ils se sont rendus compte, en récupérant les documents qui avaient été envoyés dans les années précédentes, qu'il y avait eu des décisions sur ce sujet qui n'étaient pas des décisions politiques. Et là je suis d'accord avec vous.
Pour le coup, on voyait...
Je voulais quand même dire aux auditeurs qu'on n'est absolument pas en train de juger, nous, dans ce studio, Agnès Buzyn. Non, parce que, voilà, on n'est pas du tout un tribunal. Avant le tribunal, ça se passe devant la Cour de justice de la République, parce que ça peut prendre une tournure comme
bien
ça.
Bien
donc,
sûr. J'essaie quand même Jérôme de mettre Salomon, des qui était avant dans les équipes...
Dans les services, directeur général de la santé,
voilà,
et qui a travaillé
et qui
avec
été au
Marisol Touraine.
De Marisol Touraine. La question des stocks stratégiques, c'est quelque chose qui est piloté par le ministre. Dans tous les ministères, quel que soit le champ de compétence.
Oui, mais
c'est pas. Non, mais sinon, le ministre est responsable de rien.
Non, mais ce que dit Ambroise Méjean, il a peut-être raison sur ce point, c'est que c'est comme quand il y a une maison qui brûle et qu'on se rend compte qu'il y a, en l'occurrence, enfoui quelque part, je sais pas, un truc inflammable et que ça risque de sauter. Mais ça, on le sait pas avant l'incendie. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas cette configuration-là? C'est-à-dire est-ce que le ministre de la Santé, c'est une question que je pose de manière un peu naïve, est-ce que le ministre de la Santé, à sa prise de fonction, arrive en disant, voilà, écoutez, monsieur le ministre, voilà les stocks de masques, voilà les... Est-ce qu'il a une omniscience de absolument de tout
non,
ce non, qui se passe en matière de santé en
fait,
France
non, mais là où
à la cadence à laquelle changent les ministres de la Santé, pardonnez-moi, mon cher Louis Dragnel, mais je ne sais
non,
pas
non, mais
si...
Là où vous avez raison, cher Pierre, c'est qu'il y a une telle technicisation de tous les sujets quand un ministre arrive, effectivement, très souvent, en fait, on lui demande de prendre la parole médiatiquement et en fait, il n'a pas le temps
d'absorber
techniquement tous les
pas.
Sujets. Mais normalement, en fait, il y a quand même des secrétaires généraux d'administration qui présentent au ministre voilà, les sujets, les crédits, ceux qui ont été dépensés, les sujets un peu urgents sur lesquels il faut un arbitrage. Voilà, sans doute la question des masques n'était pas la question prioritaire, mais parce que personne ne savait qu'on allait être confronté un jour effectivement à cette question-là, et là-dessus je pense que personne ne peut lui jeter la pierre.
Et quand on revient sur cette question justement du défaut d'anticipation, c'est là qu'on constate justement que c'est difficile de juger un défaut d'anticipation volontaire, parce que lorsque vous revenez dans son interview au Monde, on parlait justement des alertes qu'elle avait passées, et qu'elle dit le 11 janvier j'ai prévenu le président de la République et le Premier ministre. Elle dit également qu'elle a eu juste après cela une réunion avec le Premier ministre et qu'à cette occasion ils ont convenu notamment de dresser l'inventaire du stock de masques, de respirateurs. C'est ce qu'elle explique dans cette interview aussi. Et donc forcément, elle était, je pense, effrayée à l'idée que ça puisse échapper, mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas, à ce moment-là, pris des décisions pour avoir de la visibilité sur la façon dont les choses allaient se passer.
C'est intéressant ce que vous dites, en vrai, mais c'était peut-être insuffisant,
mais ça ne décrit pas un manque d'anticipation.
Mais alors, comment est-ce que vous lisez cet article du Monde? Visiblement, vous ne le lisez absolument pas, alors qu'on pourrait, vu les déclarations qui ont été rappelées, vous ne le lisez absolument pas comme un mea culpa.
Je ne sais pas s'il faut le lire comme un mea culpa. Je pense qu'il faut rappeler le contexte aussi de cet article. Mmh. Agnès Buzyn répond à une journaliste du Monde le lendemain des élections municipales, du premier tour des élections municipales, si mes souvenirs sont bons. Et donc dans un contexte personnel qui est difficile. Oui. Et elle le dit elle-même après. Elle regrette d'avoir répondu dans ce contexte-là à Ariane Chemin parce qu'elle considère que voilà, c'était peut-être pas le moment pour elle.
Ça veut dire qu'elle était très mal entourée parce que le premier conseil qu'on donne à un politique qui est en situation de difficulté un lendemain de scrutin, c'est de couper son téléphone et de partir très loin et de ne répondre à personne. Donc c'est là qu'on voit que l'expérience politique, bah, ça compte quand même, parce que si, quand on est politique, on sait qu'on ne parle pas à un journaliste un lendemain de... Non, la difficulté, mais là, ça relève pas...
Ou à l'inverse, on voit que c'est un gouvernement qui a été... on a pris les gens de la société civile. Ça,
non, mais je pense que dans la même situation, un Gérald Darmanin, un Bruno Le Maire, un Jean-Yves Le Drian,
là, vous parlez
des gens
de politique
qui ont des parcours
qualifiés,
et qui ont des années de militantisme, n'auraient pas pris une journaliste du Monde au téléphone un lendemain de débâcle électoral. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que la difficulté, mais qui relève pas de juge, c'est la contradiction entre... Ce que dit Agnès Buzyn d'un sentiment d'urgence, de gravité de la situation, et le fait qu'elle quitte le ministère pour se présenter aux élections municipales. Alors là aussi, évidemment, sans doute qu'elle n'a pas trop eu le choix, on ne va pas revenir sur l'épisode Griveaux, mais je pense que plein de Français se sont dit, notamment en lisant l'entretien, mais comment a-t-elle pu partir
à ce moment-là,
alors qu'elle dit elle-même que la situation était grave, qu'elle alertait et qu'elle avait peur, je reprends son terme, d'un tsunami. Bah, quand vous êtes à la tête d'un navire qui craint un tsunami, vous ne le quittez pas pour aller gagner, en tout cas vous présenter au municipal. Mais ça ne se juge pas dans un tribunal. D'abord, elle a été jugée, Agnès Buzyn, sur le plan strictement politique. Elle a perdu les élections de manière assez sèche, d'ailleurs.
Mais
quand on se souvient du raz-de-marée de Chronis, non, mais elle a été sanctionnée. Enfin, je veux dire, elle en a payé le prix très lourdement. Elle a quitté la scène politique. Je trouve d'ailleurs qu'il y a eu un acharnement assez malsain autour de sa personne. Bon, mais ça ne relève pas d'un tribunal ou de magistrat.
Je vous propose une première pause et on revient dans les débats d'Europe Soir. On parle justement du cas Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République. À tout de suite.
Europe Soir. Pierre de Villeneuve.
Et vous le savez, Agnès Buzyn, c'est l'actualité du jour. Agnès Buzyn est devant la Cour de justice de la République pour faire le point sur ce début d'épidémie. Nous sommes en janvier 2020 quand effectivement Agnès Buzyn prend la parole à l'Élysée, dit qu'il n'y a pas de risque de propagation du virus. Et le 17 mars, après son échec aux élections municipales, eh bien, elle dit qu'un tsunami était là, qu'elle l'avait pressenti et qu'effectivement, il allait envahir non seulement la France, mais aussi le monde. On en parle avec nos débatteurs du soir, le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel, avec Céline Hervieux, secrétaire nationale du PS, avec Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, et le président du Printemps républicain, Amine El-Khatmi. Louis, on recontextualise un peu cette période, effectivement, assez compliqué, on va dire, pour l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, comme je viens de le dire, était un jour ministre, puis le lendemain se retrouve catapultée au municipal.
Eh oui, alors, c'est, pour être honnête aussi par rapport à la situation dont elle hérite à ce moment-là, donc elle est ministre de la Santé, il y a le début de la crise sanitaire, et puis il y a l'affaire Griveaux, souvenez-vous, avec la publication de photos intimes, donc... catastrophe dans la Macronie, panique. Donc il faut absolument trouver un plan B. Et ce plan B, en fait, c'était Buzyn, plan B comme Buzyn. Et donc c'est comme ça qu'elle
Qui décide ça ?
Eh bien, alors, on sait qu'elle avait envie, au fond d'elle, d'y aller. Elle y croyait. Et puis à l'époque, il était question que La République En Marche puisse remporter Paris et les arrondissements parisiens. Donc il y avait cette possibilité-là. C'était une belle sortie pour elle du gouvernement, ministre de la Santé, ensuite maire de Paris. C'était quand même quelque chose d'une ascension incroyable. La mairie de Paris conduit à beaucoup de choses.
Même si elle ne reprend pas, in fine, le programme de Benjamin Griveaux.
Alors, parce que c'est très compliqué.
Puis, il
Y avait M. Villani aussi à l'époque.
Cédric Villani.
Il y avait l'espoir qu'il puisse se rapprocher de La République En Marche. Et puis donc, effectivement, elle termine avec... c'est un peu la double peine. Elle n'est plus ministre avec des polémiques terribles sur sa gestion de l'épidémie. Et en plus, elle est conseillère d'arrondissement, mais pas conseillère de Paris. Elle a passé des mois assez compliqués et je pense que ça doit rouvrir en elle un certain nombre de mauvais souvenirs.
Alors on précise aussi qu'après cette audition, il y aura aussi celle de l'ancien Premier ministre.
Sans doute,
Philippe,
parce que tant que c'est
celle
pas officiel...
d'Olivier Véran peut-être,
en tout cas ils avaient été perquisitionnés tous les deux, tout comme Sibeth
Ndiaye
aussi.
Parce que je pense qu'il y a plus d'un auditeur qui doit se dire pourquoi est-ce qu'on auditionne Agnès Buzyn et non pas le Premier ministre de l'époque qui était Édouard Philippe.
Mais je pense que ça...
Peut-être que ça pourrait...
Ça arrivera dans les prochaines semaines.
Céline Hervieux, sur justement ce cas complexe d'Agnès Buzyn à l'époque, effectivement, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur ses épaules.
Oui, oui, évidemment. Humainement, ça a dû être effectivement très compliqué. Mais en attendant, je veux dire, elle n'est pas là par hasard. Elle a pris des responsabilités politiques. Elle a fait ce choix de quitter son ministère dans un moment extrêmement compliqué où elle avait visiblement connaissance du fait qu'une crise sanitaire importante allait arriver dans le pays. Donc, c'est un choix politique qu'elle a fait, qu'elle doit assumer. Et il est important aujourd'hui qu'elle soit amenée à rendre des comptes, et y compris avec ceux que vous avez évoqués. Je crois que l'ancienne porte-parole du gouvernement également sera auditée. Donc, c'est important parce que ça peut permettre aussi aux citoyens de mettre la lumière justement sur cette affaire, de comprendre comment les décisions ont été prises. Il y a moins d'un an maintenant de la présidentielle, je pense que c'est important pour ceux qui envisageaient de voter par exemple Emmanuel Macron, de savoir eh bien, si Agnès Buzyn a été ou pas une lanceuse d'alerte à ce moment-là et qu'elle n'a pas été entendue, ou est-ce que volontairement elle a caché un certain nombre d'informations. Donc je pense que c'est des éléments qui sont importants de porter à la connaissance des citoyens. En tant que citoyenne française, voilà, j'attends que le gouvernement soit capable de rendre des comptes.
C'est ce que vous dites est important, parce que vous dites que ça va être évidemment au crédit du bilan d'Emmanuel Macron sur son quinquennat.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'on a bien vu la corrélation qu'il y avait dans le rapport, je le disais tout à l'heure, des Français par rapport aux différents traitements, à la vaccination contre le Covid-19. Donc, évidemment que cette question, elle est profondément politique dans les choix qui ont été pris, dans la façon aussi dont cette crise a été gérée, dans la façon dont on a finalement méprisé d'une certaine manière aussi les parlementaires. Macron avait fait ce choix du bunker, du Conseil de défense. C'est d'ailleurs un certain nombre d'informations qu'on n'aura pas finalement et que cette Cour de justice n'aura pas, puisque les échanges qui ont eu lieu et les prises de décision qui ont eu lieu dans ce Conseil de défense sont confidentielles. Donc après, on a demandé aux parlementaires de s'exprimer sur des décisions qui étaient déjà prises. Donc tous ces éléments, quand même, dans la manière de gouverner le pays dans un moment de crise, c'est important qu'on revienne dessus et qu'on soit capable d'expliquer et de rendre des comptes.
Ambroise Méjean, sur cette image du bunker, où on a effectivement bunkerisé certaines décisions qui n'ont pas été portées au public.
Bon, écoutez, je trouve qu'en période de crise, il est quand même invraisemblable de penser que des décisions aussi rapides, qu'il fallait prendre aussi rapidement, auraient pu être prises de la manière la plus, comment dire, avec des débats parlementaires de longueur un peu exceptionnelle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même que le Parlement a été extrêmement sollicité dans cette période. C'est faux de dire qu'il a été laissé de côté, puisqu'il y a eu évidemment des débats sur chacune des décisions que le Parlement aurait très bien pu voter contre les différentes mesures qui ont été proposées, puisque je rappelle quand même que l'état d'urgence sanitaire a été voté au Parlement, prolongé, reprolongé, re-reprolongé, et les parlementaires l'ont choisi. Et en fait, je n'entends pas et je ne supporte pas ce procès en moutonisation des députés de la majorité qui ont, comme chacun des parlementaires élus avant eux, la légitimité du suffrage et qui décident en leurs âmes et conscience, et d'ailleurs certains ont quitté la majorité parce qu'ils étaient en désaccord sur ce sujet, de voter pour cette extension de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, le Parlement a aussi joué son rôle sur la partie commission d'enquête. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, les ministres ont été auditionnés, écoutés de nombreuses fois. Vous avez eu des gens qui sont venus depuis, jusqu'à Roselyne Bachelot, on est remonté pour auditionner des personnalités politiques, pour comprendre l'origine de cette crise, et je trouve en fait que ce que fait aujourd'hui la CJR n'a pas plus d'intérêt pour le public que ce qui a été fait lors des auditions des commissions d'enquête, qui pour le coup étaient entièrement publiques, qu'on pouvait voir. Est-ce que vous voyez la publicité des débats de la Cour de justice de la République? Non. Donc, qu'est-ce que le public... Oui, mais qu'est-ce
c'est
que...
Heureusement,
mais
qu'est-ce que...
Du coup, dans cette nécessité...
Mais dans cette
nécessité de transparence, ça a quand même... Enfin, si on réclame la transparence, elle a eu lieu lors des auditions qui ont été menées à l'Assemblée nationale
et au Sénat. Devant des parlementaires ou d'être entendu par des magistrats, vous savez très bien.
Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose.
À l'issue d'une enquête à l'Assemblée nationale, on peut pas ouvrir d'informations judiciaires. Enfin, l'enjeu n'est pas tout à fait le même.
Je suis totalement d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est un peu facile de parler d'enjeux de transparence quand on parle de Cour de justice de la République, alors qu'en réalité, la transparence dans l'information est à l'Assemblée nationale et au Sénat dans ses commissions d'enquête.
Amine El Khatmil, là-dessus, justement, sur la transparence des débats.
Non, mais moi, je reste sur ma position. Je trouve ça assez... Je trouve ça assez contre-productif. Je pense que ça va avoir des effets délétères à l'avenir sur... la prise de décision. D'ailleurs, on a parlé du Conseil de défense.
Sur la prise de décision de quoi, pardon?
De la part des politiques, sur des décisions, s'ils ont à chaque fois le risque que pèse sur eux, le risque de se retrouver. Et d'ailleurs, pourquoi le président décide de passer par le Conseil de défense beaucoup plus que par le Conseil des ministres? C'est parce qu'il y a la protection qui est conférée aux décisions prises en Conseil de défense qui n'ont pas le même statut que les décisions prises en Conseil des ministres. Donc voilà, là.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut décider de faire tout en Conseil de défense.
On peut briser un tabou. Il y a une force dans la Ve République, c'est quand même un outil très puissant. C'est que le président, c'est un avis personnel, le président a un pouvoir quand même assez fort, surtout dans les gestions de crise comme celle qu'on a vécue. Et le, très sérieusement, le Conseil de défense a permis d'aller extrêmement vite. Et je pense que c'était une
mais c'est
bonne
analysée aussi.
Je pense que c'était une bonne idée. Après, tout l'enjeu, c'est d'en sortir le plus vite possible. Mais... Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps,
c'est
ce
ça.
Genre de situation.
Parce que sinon, il va y avoir un autre truc que le Conseil de
côté,
défense.
Si on se dit la vérité sans tabou de la même manière, les débats parlementaires étaient une forme de simulacre de débat. C'est-à-dire que le gouvernement avait très peu de temps en fait, pour faire voter ces textes. Et je n'impute pas la faute au gouvernement, mais de l'autre côté, je peux entendre les parlementaires qui disent on nous a convoqués de 10h à 5h du matin, ça reprenait à 9h. Et en fait, des deux côtés, on peut entendre... il y a des arguments qui ne sont pas totalement irrecevables. C'est-à-dire qu'il fallait avancer vite. Et donc, le Conseil de défense était une bonne chose. Mais de l'autre côté, que le gouvernement ne dise pas non plus, voilà, on a pris le temps du débat, tous les avis ont été entendus.
Mais ça, c'est plutôt avait le même... travers de la Ve République que la crise elle-même. La crise a révélé
je vais dans votre sens. C'est la dictature un peu de la transparence poussée à l'extrême. C'était un semblant un peu de pouvoir démocratique donné au Parlement. Et où tout le monde y perdait, parce qu'en fait, on voyait le niveau des débats, honnêtement, là, sur beaucoup d'articles, c'était assez pauvre. Et puis à la fin, on savait très bien que ça allait être voté. L'enjeu, c'était quand même compliqué pour des groupes parlementaires, comme les groupes PS ou les Républicains, de voter contre des décisions très importantes sur l'avenir du pays.
Et qu'ils auraient prises...
Ça, vous pouvez en témoigner, Céline Hervieux.
Dans les mêmes termes.
Ils auraient pris les mêmes.
Oui, mais par exemple, les présidents de groupes parlementaires avaient demandé à être entendus, à participer aux réunions, pour avoir au moins un œil. Si vous voulez... Olivier Faure et Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, expliquaient qu'il n'y avait aucune information. Ce qu'on essaie de dénoncer, c'est l'opacité dans la prise de décision et que les parlementaires, justement, étaient considérés comme des pantins. Alors, effectivement, au moment de voter, ça a été voté, mais il y a eu beaucoup de décisions contradictoires par rapport à ce qui était exprimé par les oppositions. Et les oppositions n'ont pas du tout été entendues. Donc oui, j'entends qu'il faille réagir vite en situation de crise, mais on est quand même en démocratie.
Les oppositions étaient reçues.
Donc c'est important.
Ils ont été reçus,
mais les décisions étaient déjà prises.
Ça, c'est la Ve République. Oui. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez quasiment pas de
pouvoir. Mais même au gouvernement,
on était en situation exceptionnelle.
Mais c'est vrai, factuellement, c'est exceptionnel.
Attendez, pas tous en même temps.
Mais quand vous avez, en France, quand vous avez la majorité, vous avez quasiment tous les pouvoirs. Et quand vous êtes dans l'opposition... Vous avez un pouvoir qui est extrêmement limité. C'est comme ça, en fait.
On va pas révéler un secret d'État en rappelant qu'il y a des ministres qui découvraient la feuille de route de leur ministère
de leur
quelques minutes avant l'allocution du président de la République. On le sait.
Voire
pendant l'allocution. Moi, j'ai des amis en cabinet ministériel qui, à 19h55, recevaient du secrétaire général de l'Élysée le fil de l'intervention. Alors, ils avaient été consultés avant. On dit, l'éducation, qu'est-ce que vous proposez? Vous, qu'est-ce que vous proposez?
Et parfois, pas du tout.
L'arbitrage était fait à l'Élysée. On peut considérer que c'est un travers.
Aussi parce que ces allocutions étaient écrites pratiquement quelques minutes, enfin le point final était mis quelques minutes avant l'allocution.
D'un point de vue strictement démocratique, ça pose quand même un problème. Quand vous êtes ministre, que vous êtes quasiment traité au même rang que le citoyen lambda qui attend 20 heures pour savoir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, ça paraît pas normal.
Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Amine El Khatmi, le fait que les ministres doivent avoir un autre traitement que le citoyen? On est tous citoyens lambda.
Sinon, à quoi ils servent? Je suis désolé.
Mais
je préfère que le ministre soit mieux informé que moi. Oui, que le ministre de l'Éducation nationale soit mieux informé que moi pour savoir. Ça me paraît complètement absurde.
C'est essentiel en fait pour pouvoir décliner ensuite, parce que notamment pour l'Éducation nationale, ça a été d'une complexité avec les protocoles qui changeaient sans cesse. Aucune forme d'anticipation. Et derrière, ce sont les professeurs, les enseignants qui ont été en première ligne et qui ne savaient plus à quoi s'en tenir, à quelles règles se fier. Donc, ça a été extrêmement compliqué d'un point de vue opérationnel, en fait, dans le quotidien des Français, ce manque d'anticipation et ce manque de transparence, cette opacité par rapport aux prises de décision qui changeaient aussi régulièrement. Donc, évidemment, les ministres doivent être tenus informés, mais les parlementaires, j'estime aussi, et notamment à travers les présidents de groupe, des prises de décision pour qu'en plus, ça puisse être relayé. On est en lien avec un certain nombre de syndicats, avec un certain nombre d'associations professionnelles. Donc, pour relayer aussi ce qui va être décidé, c'est important parce que sinon, ça crée énormément d'anxiété, si vous voulez. Ça crée beaucoup de fantasmes. Et c'est ce qui complique, à mon avis, la situation dans une gestion de crise. Ce n'est pas vraiment favorable.
Je rejoins en partie ce que vous venez de dire à l'instant. Là où je vous trouve un peu sévère, c'est qu'en fait, il y a une évolution dans cette crise. Au début, le temps de la crise était extrêmement rapide, mais ensuite, le Premier ministre a associé du mieux possible l'opposition lorsqu'il a mis en place les comités de liaison. Ça a été fait effectivement un mois ou deux mois après les demandes, mais les demandes ont été écoutées. Et je prends un exemple très concret, par exemple sur le pass sanitaire, la mise en place du pass sanitaire, la date de fin devait être normalement, selon la proposition du gouvernement, je crois au 15 décembre, au 31 décembre, et suite aux échanges avec le Sénat et au débat parlementaire, elle a été ramenée au 15 novembre. Et
également majorité.
Oui, mais il y a eu les deux, le Sénat souhaitait aussi ramener durée du pass sanitaire à un niveau moindre.
Donc c'est marginal.
Tout l'enjeu, c'est de savoir gérer à la fois l'urgence et la capacité à associer. Et je pense que rien ne s'est fait de manière parfaite, et je le reconnais bien volontiers, et je pense que le président de la République le reconnaîtrait également. Mais en même temps, il y a eu une volonté aussi de s'améliorer au fur et à mesure de la crise pour avoir une gestion qui soit de meilleure qualité et qui associe le plus de monde possible. Pareil sur les consultations des syndicats, vous parliez des protocoles scolaires, ceux qui ont été faits cet été ont été faits quand même de manière avec un peu plus d'anticipation que les précédents.
C'est pour ça que je demandais si les ministres devaient avoir une sorte de privilège d'être au courant avant. Ça, évidemment, je ne remettais pas ça en question. Et ils sont là quand même pour effectivement faire la gestion de crise à notre place, puisqu'ils sont là effectivement en représentation. Ce que vous dites, effectivement, on peut rebondir là-dessus, puisqu'il y a eu un président avant lui qui voulait être le président normal. Et peut-être que la normalité a été inculquée, et je parle sous votre contrôle, à vous quatre, par Emmanuel Macron, quand il a tenu au courant, au jour le jour, pratiquement, avec Jérôme Salomon qui descendait pour dire il y a tant de victimes, tant d'hospitalisations. Il y a eu cette déclaration du président Macron qui disait « Nous sommes en guerre ». Et effectivement, on avait l'impression d'être en guerre, puisqu'on avait l'ordre de bataille pratiquement tous les soirs avec les chiffres, avec le statut des différentes évolutions de la crise, Louis Dragnel.
On voit que le gouvernement essayait de communiquer surtout aussi pour convaincre, parce que pas question pour le
donc
gouvernement.
Donc il y avait aussi de la politique
là-dedans. Ah bah bien sûr, mais de la politique, pas dans le sens politique. Alors bien sûr qu'à terme, l'enjeu, c'est de tout président, c'est s'il veut être réélu, c'est que sa politique soit acceptée et appréciée par les Français. Mais l'enjeu surtout, c'était à l'instant T, c'était de remporter l'adhésion des Français par rapport aux décisions qui étaient prises. Ensuite, ça répond toujours pas à la question les parlementaires qui veulent être associés, qui sont pas associés aux décisions. Moi, je pense que c'est un idéal vers lequel il faut tendre, d'essayer d'associer le plus possible les parlementaires. Mais de toute façon, comme ce ne sont pas eux, en tout cas les parlementaires d'opposition, qui auront le dernier mot, de toute façon, c'est l'exécutif qui dispose de la majorité qui décide et qui est souverain dans sa décision.
C'est aussi la Ve République.
Oui, exactement. Et c'est plutôt une. Enfin, moi, je trouve. Alors là, ça l'a prouvé pour la gestion de la crise sanitaire, qu'on soit d'accord ou pas. Mais globalement, ça permet au président de décider extrêmement vite et dans beaucoup de crises, pour la gestion d'une guerre, pour tout un tas de choses. Ensuite, je pense que ce qui a fait beaucoup de mal, en fait, et ce qui a nourri le débat politique et ce qui a exaspéré les parlementaires à raison, c'est les déclarations parfois avec un aplomb incroyable de certains ministres qui prétendaient avoir la vérité sur des choses dont ils savaient à peu près rien, et deux semaines après entendre le même ministre avec le même aplomb vous dire exactement le contraire.
Oui.
Et c'est ça qui a fait énormément de mal, énormément de tort, en fait, au gouvernement. Parce qu'en fait, même vu de loin, les Français font confiance aux experts. Ils entendent le ministre de la Santé, ils se disent « mais c'est un médecin bardé de diplômes, il a forcément raison ». Et voir 15 jours plus tard, la même personne dire exactement le contraire, la crise de confiance, elle naît à ce moment-là.
Oui, alors là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que vous ne précisez pas, c'est aussi que ces déclarations, qui étaient déclarations assez fortes, notamment sur la question des masques, j'imagine c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, sont des déclarations qui étaient déclarations basées sur ce que disait l'OMS, ce que disaient les autorités scientifiques à un instant T, et que ces analyses scientifiques ont évolué.
C'était présenté avec une forme.
Cette interview d'Edouard Philippe qui justement répond à cette question de est-ce que vous regrettez d'avoir un moment dit aux Français que le masque n'était pas nécessaire. Il ne le dit pas un instant parce qu'il le dit en tant que Premier ministre, avec la force de conviction qui doit être la mienne en tant que chef du gouvernement. Je devais à ce moment-là
faire passer un message politique.
J'ajoute un point quand même que vous ne mettez pas et qu'on n'a pas mis dans ce débat, c'est aussi la responsabilité des oppositions, parce que là on parle des oppositions responsables et calmes. J'ajoute quand même que dans ce débat politique, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'on avait toute une partie des Républicains et du Rassemblement National nationale qui nous expliquait qu'il fallait injecter de l'hydroxychloroquine à tout le monde en suivant le professeur Raoult, qu'on avait Mélenchon qui racontait tout et n'importe quoi sur la société de roulement et je ne sais quoi.
Comme
et donc,
d'habitude.
Vous avez aussi une hystérisation du débat politique qui existe toujours aujourd'hui avec Florian Philippot, avec tout un tas de leaders qui ont une forme de responsabilité, je trouve, écrasante dans la façon dont les Français peuvent juger de l'évolution de cette crise sanitaire.
Même chose que c'est pas Édouard Philippe qui était visé, parce que précisément s'il y a quelqu'un qui, dans cette crise, n'a cessé de dire « je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas cette information à ce stade », et je me souviens, j'étais particulièrement frappé, à chaque séance de questions au gouvernement, il commençait quasiment chaque réponse par « monsieur le député, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas », etc. Lui, pour le coup, il a vraiment fait preuve de recul et de sincérité en disant « ça, je sais, je peux le dire, mais ça, je ne sais pas, je n'en sais rien ». Mais il y en a d'autres qui se sont clairement un peu moqués de nous, quoi. Enfin, pardon, Sibeth Ndiaye, qui nous explique très sérieusement qu'on ne demande pas aux gens de porter le masque parce qu'ils ne savent pas le porter.
Moi, je suis ministre, je ne sais pas comment on met un masque.
La réalité, c'est que le gouvernement ne demandait pas aux gens de porter de masque parce qu'il n'y avait pas de masque. C'est tout, c'est ça. Là, et c'est pas eux les responsables, parce que là aussi, on a eu tout un débat. C'est pas Agnès Buzyn qui était responsable de la baisse des stocks de masques. C'est des décisions qui ont été prises, notamment par les gouvernements précédents.
Par Jérôme Salomon.
Qui était directeur de la santé, mais c'était pas le ministre ou la ministre en place à ce moment-là. Et donc, on pouvait pas dire aux gens, oui, port du masque obligatoire, alors qu'il y avait pas de masque dans les pharmacies ou dans les mairies, et qu'on se souvient de scènes où des régions allaient acheter des masques sur les tarmacs d'aéroports pour essayer de livrer les
gens. D'ailleurs, ils les vendaient aux plus offrants. En Chine, les masques partaient la plupart
du temps
aux Américains.
Mais on n'avait même pas dans les hôpitaux. On se souvient, dans les hôpitaux, ils fabriquaient des blouses avec des sacs poubelles parce qu'ils n'avaient pas de blouses à ce
dans
moment-là.
Dans les hôpitaux, il faut le dire, ils ont été héroïques. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait avec les moyens du bord. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. On va changer de sujet, dans un petit instant. On va parler de politique avec les avancées. Est-ce qu'il y a des avancées chez les LR, justement, les parlementaires républicains réunis à Nîmes? Fin de partie, mais est-ce qu'on y voit plus clair? On en parle avec nos débatteurs. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, Amine El Khatmi, président du Printemps républicain, Céline Hervieux, secrétaire national du PS, et le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean. C'est dans un tout petit instant, 18h41.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Et on continue nos débats d'Europe Soir avec Céline Hervieux, secrétaire nationale du PS, avec Ambroise Méjean, le président des Jeunes, avec Macron, avec le président du Printemps républicain, Amine El Khatmi, et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Samuel Beckett avait appelé sa pièce fin de partie, mais on espère pour les LR que ça ne terminera pas aussi mal. Fin de partie, bon, j'aurais pu dire rideau baissé, ou bon, tout simplement fin des journées parlementaires des LR à Nîmes. Et cette photo quand même, celle du dîner. Trois bouteilles de rouge sur la nappe blanche, tous les candidats rassemblés, rigolants, les pommettes rosies, mais vous avez tous remarqué les couteaux, hein, tout le monde l'a remarqué, les couteaux restés sur la table. Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti, Juvin, mais aussi Wauquiez, Abad, Jacob, Larcher, Beltablé, et des candidats qui étaient venus pour convaincre. Xavier Bertrand, bien sûr, juste avant ce dîner, surgonflé, en mode « ma stratégie est la bonne ».
Nous serons unis, nous serons forcément unis. Je connais les différents participants possibles à cette élection. Bien sûr qu'il y a des différences de personnalité, de tempérament, parfois même de ligne politique, mais c'est la même famille politique.
C'est la même famille politique, dit Xavier Bertrand ce matin. Dans sa tête, ça veut dire, comme depuis le début, pas de primaire. Tout le monde se ralliera tôt ou tard à moi. Pour Valérie Pécresse, son discours ressemblait un peu à un entretien d'embauche.
Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai décidé le 21 juillet de me présenter à l'élection présidentielle. La réponse, elle est simple. C'est parce que je me sens prête et c'est aussi parce que j'ai la gagne.
J'ai la gagne, dit Valérie Pécresse. Xavier Bertrand reste sur sa ligne de dire pas de primaire. D'ailleurs, ça commence à faire son chemin au niveau des Républicains, ce trend de pas de primaire, Louis Dragnel.
Bah alors c'est vrai que ça, tous les deux jours en fait ça change. Avant les journées parlementaires LR, on avait l'impression que la primaire était sur le point d'être actée. Et puis finalement, vous voyez, on avait notre reporter sur place, Alexandre Chauveau, qui nous expliquait dans les journaux justement précisément que les parlementaires qu'il voyait disaient il faut surtout qu'on trouve un accord pour éviter la primaire. La primaire, c'est la machine à perdre, ça crée des divisions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on retient à l'issue de ces journées parlementaires, les Républicains à Nîmes, c'est que tous les candidats potentiels, qu'ils soient LR, pas LR, Xavier Bertrand, pas Xavier Bertrand, tous s'accordent à dire qu'il faut soutenir un seul candidat. C'était pas gagné d'avance. Donc c'est peut-être, vous savez, c'est, les Républicains, c'est l'art des petits pas, ils avancent doucement en ce moment.
Céline Hervieux, comment est-ce que vous avez vu cette photo avec la tablée là ?
Oui, tout à fait, c'est vrai que l'image avec les couteaux est quand même extraordinaire parce qu'on sent que c'est une guerre des chefs. Oui, ça m'a fait rire si la situation de la France n'était pas aussi grave, mais bon, ce n'est pas mon camp politique, donc évidemment je prends ça avec un certain recul.
Il y aurait une tablée PS, vous auriez dit que c'était tout à fait normal et qu'on a juste bien rigolé à table.
Non, mais j'aurais pu sourire aussi de l'image, mais si vous voulez, on a plus cette culture justement de la démocratie interne au Parti Socialiste que ne l'ont les Républicains, et c'est vrai qu'ils s'étaient frottés à cet exercice compliqué en effet de la primaire la dernière fois. Bon, on a vu que ça avait créé un certain nombre de dissensions. C'est compliqué à gérer parce que ils ont dans leur ADN politique du parti plutôt une culture du chef comme ça qui s'impose. Et aujourd'hui, on voit toute la complexité de ces personnalités assez différentes finalement qui vont s'opposer et aussi du positionnement politique finalement des Républicains. On a vu notamment dans le cadre des régionales que c'était compliqué parce que vous avez vraiment une scission entre les deux ailes du parti, un qui se rapproche plutôt du camp de Marine Le Pen, notamment représenté par exemple Éric Ciotti, et vous avez un côté plus Macron compatible, mais du coup qui a des difficultés à marquer justement cette différence avec La République En Marche. Donc évidemment ça va être un exercice difficile pour eux. Après, sur le positionnement de Xavier Bertrand, vraiment, moi, je suis toujours assez étonnée, en fait, de cette capacité qu'ont les personnalités politiques à quitter la barque quand ça va mal, et ensuite à revenir vers les partis politiques à la veille d'une élection, en se rendant compte que peut-être ils vont avoir besoin d'une infrastructure, peut-être ils vont avoir besoin d'argent, peut-être surtout ils vont avoir besoin des militants pour faire leur campagne et relayer leur message. Et tout d'un coup, ils se tournent vers le parti en disant bah, « finalement, je suis l'homme présidentiel, donc providentiel, suivez-moi, on va y arriver. » Sur la base de quoi ? Sur la base d'un sondage qui le positionne, de plusieurs sondages qui peuvent le positionner, soi-disant, comme meilleur challenger face à Marine Le Pen ou Macron. Alors, mais ce n'est pas très convaincant.
On continue le débat. Je vous signale juste qu'Agnès Buzyn est sortie de la Cour de justice de la République, dont on parlait justement juste avant. Elle était convoquée, vous le savez, en vue d'une possible mise en examen. On n'a pas de détails pour l'instant sur ce qui s'est dit ou ce qui s'est décidé. Mais en tout cas, bien sûr, on revient dès que possible. Ambroise Méjean, justement, sur cette image des Républicains à table.
Moi, ça m'a. J'ai eu la sensation de voir un peu une tablée de rentiers qui, en fait, ont pour seul objectif effectivement de présenter un seul candidat pour une raison simple, c'est qu'ils savent très bien que si ils n'y arrivent pas, ils perdront leur rente à la fin de cette élection présidentielle. Et la question que je me pose, c'est la question de l'existence même des Républicains, et ça rejoint un peu l'intervention qui a été faite avant avec une famille politique qui est effectivement partagée en deux camps et qui a déjà commencé à se scinder avec effectivement des personnalités qui sont très à droite de l'arc politique et qui ont en partie déjà rejoint Marine Le Pen quand on regarde le candidat qu'elle a présenté dans la région PACA, qui est un candidat, Thierry Mariani, qui est un ancien ministre des Républicains, et puis une partie de la famille politique plus modérée qui a déjà rejoint notre parti à nous, en tout cas notre majorité, avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno
Le
Maire.
Il n'y a pas de rentier là, chez vous.
En fait, en réalité, les gens qui sont venus chez nous sont venus parce qu'ils avaient des convictions idéologiques. Oui. La question, c'est qu'est-ce qui rapproche encore les Républicains, si ce n'est la nécessité de conserver les régions
ou simplement parce qu'ils n'ont pas eu d'investiture dans leur parti d'origine, on en connaît aussi.
Bon, Édouard Philippe, c'est pas pour cette raison-là.
Non, je peux difficilement dire.
Gérald Darmanin non plus, Bruno Le Maire non plus.
Bah si, soyez désagréable, c'est le but du jeu.
Non, mais ce que je veux dire par là, au-delà de cette histoire de table de rentier, c'est qu'il y a quand même une question qui se pose, c'est quelle est la ligne politique des Républicains ? Qu'est-ce qu'ils défendent ? Parce que quand on entend les candidats à l'élection présidentielle chez les Républicains, des fois j'ai l'impression que certains se sont un peu endormis pendant 5 ans, notamment Xavier Bertrand qui n'a pas très bien constaté que nous avions appliqué une partie des propositions qu'il fait quand il parle de baisse de fiscalité sur les entreprises. Très bien, nous l'avons fait quand la droite au pouvoir ne l'avait pas fait. Quand il parle de sécurité, nous avons recruté des policiers quand la droite en a supprimé. Quand il parle de tout un tas de réformes et notamment de plans d'investissement sur l'avenir, j'ai envie de lui dire ouvrez France Relance, puisque c'est ce que nous faisons depuis un an. Et donc là, je vois aussi une question de ligne politique. Est-ce qu'au-delà de s'accorder sur un candidat, ils arriveront à incarner quelque chose dans le spectre politique ? Moi, je ne pense que ce n'est plus le cas.
Alors, je suis désolé de faire le va-et-vient moi aussi de mon côté, mais l'actualité prime sur le direct et on apprend à l'instant qu'Agnès Buzyn est mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est le parquet général générale de la Cour de justice de la République qui nous fait part de cette information. Une première réaction, Ambroise Méjean, sur...
Je pense qu'on verra ce qui sortira de cette mise en examen. Après, encore une fois, je trouve que c'est un peu dommage qu'on en arrive à ce stade-là et qu'effectivement, ça aura à la fin des conséquences sur les décisions, et c'est ce que disait très bien Amin El-Khatmi tout à l'heure, sur les décisions que les hommes politiques prendront dans la gestion des crises sanitaires. Et je pense que à titre personnel, je vois mal comment on peut accuser Agnès Buzyn d'avoir à un moment volontairement voulu attenter à la vie d'autrui dans une gestion de crise sanitaire.
On peut dire quelque chose là-dessus, Louis Dragnel ?
Il faut juste rappeler, elle est mise en examen, ça veut dire elle est présumée innocente. Oui, exactement. Il y a plein de gens qui sont mis en examen.
Ça veut dire qu'on a un réseau d'indices concordants qui peut laisser penser qu'elle a voulu attenter à la vie.
Mais une mise en examen peut être levée, alors après, il faudra regarder la suite. Donc pour l'instant, elle va pouvoir aussi accéder à certaines pièces du dossier. Donc pour elle aussi, ça permet d'avancer un peu. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, mis en examen veut dire condamné. C'est vrai que la plupart du temps, si vous êtes mis en examen, ça arrive quand même. Il y a de fortes probabilités qu'ensuite on vous reproche ou que la justice vous reproche des choses, mais pas toujours. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas s'arc-bouter sur le fait qu'elle est mise en examen. Il faut attendre la suite. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est si vous êtes condamné ou pas. C'est tout.
Amin El-Khatmi, vous disiez à l'instant, c'est incroyable.
Oui, non, mais je reste sur ma position. Après, la mise en examen, elle paraissait à peu près évidente. Enfin, c'était soit ça, soit placé sous le statut de témoin assisté. Voilà, et Louis a eu raison de rappeler que ça ne présage en rien de ce qui se passera à la fin.
Céline Hervieux, un commentaire sur cette mise en examen de l'ancienne ministre de la Justice, Agnès Buzyn ?
Écoutez, moi je fais toujours confiance à la justice de ce pays, donc je considère que si elle a été mise en examen, c'est qu'il doit y avoir un faisceau de preuves justement qui peuvent laisser à penser qu'elle a pris des décisions alors qu'elle était au courant de la crise qui arrivait. Donc on va voir, effectivement, pour l'instant c'est difficile de se prononcer, mais je trouve que c'est important, c'est intéressant de suivre cette affaire de près, et elle ne sera pas la seule, évidemment, on le disait tout à l'heure, à être entendue. Donc je fais confiance à ce groupe finalement composé notamment de magistrats et de parlementaires pour faire la lumière sur ce qui a été réellement prise comme décision sur le moment.
Louis Dragnel, tout à l'heure, on évoquait de manière assez vague les peut-être futures auditions d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran. Est-ce que le fait que là, maintenant, ça tombe, qu'on sait qu'Agnès Buzyn est mise en examen, est-ce que ça va accélérer les choses ou est-ce que c'est totalement indépendant ?
Ce qui est intéressant quand on regarde la genèse de cette histoire d'un point de vue judiciaire, c'est faut regarder toutes les personnes qui ont été perquisitionnées. Donc il y a Sibeth Ndiaye, Edouard Philippe, il y a effectivement Madame Buzyn, Olivier Véran. Je rejoins Amine tout à l'heure sur ce que vous disiez. Moi ça me gêne quand même beaucoup. Enfin, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec l'idée de perquisitionner le logement, la chambre de la fille du Premier ministre. C'est quand même une intrusion assez incroyable. On se demande d'ailleurs ce qu'on va trouver. Oui. Mais du coup, il y a de fortes chances. Après, tant que la justice n'est pas rendue, il n'y a que les juges qui peuvent le dire. Mais quand on voit la co-responsabilité, si on peut parler comme ça, qui existe au sein d'un gouvernement, il y a quand même de fortes chances pour que Édouard Philippe, qui était quand même le au-dessus en termes de responsabilité d'Agnès Buzyn, il y a de fortes chances que l'ancien Premier ministre soit également mis en examen et que tous les acteurs du dossier, vraisemblablement, ils devraient l'être. Après, tant qu'ils n'ont pas été convoqués et qu'ils n'ont pas été mis en examen, pour l'instant, il ne s'est rien passé.
Voilà, pour l'instant, effectivement, c'est toute dernière nouvelle. Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, une ex-ministre française de santé inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est les dernières nouvelles qui nous parviennent par le parquet général de la Cour de justice de la République. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans le journal de 19h qui arrive avec Alexandre Lemaire. Et nous, juste après, eh bien, nous reparlerons de ce sujet que nous avions déjà entamé sur ces Républicains, sur cette photo de famille. Qu'est-ce qu'on peut dire des Républicains ? Est-ce qu'ils sont à nouveau accordés ? Est-ce qu'ils ont accordé les mêmes violons ? Ou est-ce qu'au contraire, les différences seront à nouveau sur la table ? Eh bien, on en parlera justement avec nos débatteurs qui sont toujours là. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec Amin El-Khatmi, président du Printemps Républicain, Céline Hervieux, secrétaire nationale du PS, et Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron. Ne bougez pas dans un instant, c'est le journal de 19h.
Europe Soir, 18h-20h.
Pierre de Villeneuve.